C'est avec une grande joie que je vous retrouve ici pour un nouvel épisode hyper touchant de My Name is Mom. Ça fait des mois que le podcast est à l'arrêt, alors ce n'était pas un choix, mais mon podcast à cœur ouvert a pris tellement de place que j'ai manqué de temps. À cœur ouvert, c'est un podcast privé, c'est-à-dire qu'il n'est diffusé nulle part. Vous venez l'enregistrer avec moi et vous l'adressez à la personne de votre choix. Il n'appartient qu'à vous. C'est vous qui choisissez à qui vous souhaitez le faire entendre. C'est une lettre d'amour, c'est un message que vous adressez à vos proches, c'est votre histoire racontée à vos enfants, c'est un cadeau que vous vous faites et que vous faites à ceux que vous aimez et qui vous aiment. À cœur ouvert, c'est un podcast précieux qui est né grâce à My Name is Mom parce que je recevais plein de messages de mamans qui souhaitaient me raconter leur histoire. Pour plus d'infos, allez voir sur le compte à cœur ouvert podcast sur Instagram et contactez-moi si vous avez envie que je vous interviewe. Je vous mets les infos dans la description. Maintenant que mon silence est expliqué, place au podcast du jour. Mon invitée s'appelle Julie Compagnon. Vous la connaissez de The Voice Belgique, peut-être. Elle était demi-finaliste lors de la première saison du programme. Vous la connaissez peut-être aussi pour son groupe de musique Plain Jane ou parce que vous l'avez entendue sur les ondes des radios de la RTBF. On se connaît un peu avec Julie. Et ce qui m'a toujours frappée chez elle, c'est son sourire hyper lumineux. C'est le genre de nana qui illumine la pièce dans laquelle elle entre. C'est encore le cas aujourd'hui, vous ne pourriez pas deviner en la rencontrant pour la première fois qu'elle a vécu l'enfer. Julie a perdu son conjoint, son amoureux, le père de sa fille, son collègue, Raphaël, d'une maladie fulgurante qui s'est déclarée sans prévenir en février 2020. Tout est allé très vite. Raphaël est décédé le 26 avril 2021. Je voulais que Julie nous explique comment on fait pour élever un enfant soudainement orphelin. Comment on réussit à lui dire que la vie est belle alors qu'elle nous a réservé le pire. Ce podcast, c'est une histoire d'amour, de maternité, de résilience. Je suis sûre que les mots et le courage de Julie vous accompagneront longtemps. Voici son histoire. Salut Julie.
Salut Déborah.
Alors, je suis très contente de reprendre les My Name is Mom avec toi. Ça fait un moment que je t'avais contactée. J'avais très envie de te parler de ce que tu as vécu, qui est triste, mais que j'ai l'impression que tu transformes en quelque chose de super doux dans ce que je te lis voilà, sur les réseaux sociaux. Tout ça, moi, c'est l'impression que j'en avais. Et j'avais très envie de venir à ta rencontre pour que tu me racontes un petit peu. Donc, avant de commencer et vraiment de rentrer dans le vif du sujet et que tu me dises pourquoi tu es là, je voudrais savoir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Qui es-tu, Julie?
Alors, je suis Julie Compagnon. J'ai visiblement 40 ans depuis un peu moins d'un mois. Je suis, pour mon boulot, artiste, chanteuse, de temps en temps chroniqueuse pour la RTB, et la maman de Jeanne, qui a bientôt 10 ans dans une poignée de jours.
De qui est composée ta famille? Donc, il y a Jeanne.
Il y a Jeanne. Aujourd'hui, on vit avec Julien, qui est mon nouvel amoureux. Puis il y a ma famille, évidemment, mon frère, ma sœur, mes parents, la famille du papa de Jeanne, la famille de Raphaël, donc les grands-parents, les frères, les sœurs, enfin les tantes. Et puis il y a aussi la famille de Julien qui est fort présente, frères, sœurs, parents, pareil. Donc on est un joyeux petit monde.
C'est qui Jeanne? Comment est-ce que tu me l'as décrit? Là, elle va avoir 10 ans,
ouais.
Donc elle a sa petite personnalité. Qui est-ce qu'elle est? Quelle en français?
Elle n'a pas une petite personnalité, elle a plutôt une personnalité assez intense. Ma fille, ouais, elle est intense, elle est très empathique, je trouve. Elle est futée et elle est assez, enfin, elle est très drôle. Donc Jeanne, ouais, c'est un mélange assez complexe de tout un tas d'émotions qui naviguent et c'est les montagnes russes sans arrêt. Mais en même temps, elle est riche de plein de choses. Elle est très très, elle a un tempérament très très artistique. Elle est beaucoup dans ses pensées. Elle réfléchit beaucoup et en même temps, elle est très spontanée. Après, c'est ma fille, mais moi, je la trouve très forte et très et bouleversante.
T'as toujours voulu avoir un enfant?
Eh bien, non, pas. Enfin, je sais pas. En fait, c'était un concept assez flou, le fait d'être maman ou d'être parent. J'avais avant de tomber enceinte de Jeanne, je dois dire que j'y avais pas beaucoup pensé.
Ouais, c'était pas un projet de genre t'as 16 ans, tu te projettes dans ta vie d'office, t'as un enfant dans le tableau, quoi.
Non, j'ai eu des phases dans ma vie où j'ai eu envie d'enfant, 4, 3, 2, 1, et puis j'ai eu des phases dans ma vie où je me suis dit, ah non, pas d'enfant. Donc non, le fait d'être tombée enceinte, voilà, c'est quelque chose qui, c'est une nouvelle qui est arrivée comme ça, mais j'avais pas réfléchi à ça avant. C'était pas un projet ou c'était pas non plus un non-projet. C'était juste pas c'était pas à l'ordre du jour, je pensais pas à ça.
Donc c'était un accident, si j'entends ça.
Un très heureux accident, ouais. Parce que c'est plutôt
un
super beau cadeau, mais non, c'était, voilà, je tombe enceinte, et puis je suis restée enceinte 9 mois, c'est plutôt une chance, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance, et je dis ça aussi parce que voilà, pendant toute la durée de ma grossesse, je me suis dit mais c'est pas possible, je sais pas fabriquer un enfant, comment est-ce que je vais rester enceinte, je vais pas rester enceinte. J'ai eu pendant 9 mois le sentiment qu'elle allait pas rester, qu'elle allait pas vouloir rester à l'intérieur de moi. Et puis finalement, elle est quand même restée. On a eu quelques complications pendant la grossesse, mais au final, j'ai accouché de cette petite merveille qui n'avait pas non plus spécialement de prénom quand elle est arrivée. Puis on s'est dit, oh, on va l'appeler comme ça. Oh, bon, allez, ça va être Jeanne et ça va être super.
À ce moment-là, t'es avec Raph depuis combien de temps?
À ce moment-là, je suis avec Raph depuis un peu plus d'un an. Et donc, ouais, c'est arrivé comme ça. En plus, moi, j'étais tout le temps partie à gauche, à droite parce que j'avais arrêté mon boulot de prof. Il m'avait dit de chanter parce que je chantais bien. Je sortais de The Voice. Enfin, c'était un peu une période un peu... un tourbillon, quoi. Et à ce moment-là, on s'était rencontrés, on était fous amoureux. Et puis voilà. Et puis en un coup, je faisais mes débuts à la radio sur Classique 21 parce que j'avais été engagée suite à The Voice. Puis un matin, voilà, je me réveille, je sens qu'il y a un truc. Je me dis, je vais acheter un test de grossesse et le lendemain, je vais le faire. Le lendemain, je le fais, je suis enceinte, mais je me réveille à 4 heures du mat pour aller faire les remplacements d'Éric Laforge à 6 heures. Et donc, le lendemain, je me réveille à 4 heures, je prends ma douche, je fais mon test de grossesse entre ma douche et le truc, puis je suis enceinte, en fait. Puis je vais dans l'oreille de Raph et je dis, au fait, allez, je m'en vais, j'ai 2 heures de route. Parce qu'on habitait à Liège à l'époque, et puis je lui dis, au fait, je suis enceinte, hein. Allez, salut, à tout à l'heure. Mais pour dire à quel point je me suis dit, mais attends, c'est fou, c'est quoi ce tourbillon, c'est quoi ce truc? Et puis voilà, et puis finalement, je suis restée enceinte 9 mois, quoi. Mais on est arrivé à la maternité, on n'avait pas un linge, on n'avait pas un body, on n'avait pas une poussette, on n'avait pas de chambre, on venait d'acheter une maison qui était plus ou moins en construction, enfin, c'était... C'était en freestyle, mais complet, quoi. Mon frère m'a amené un body, j'ai récupéré tous des vieux trucs, bref.
C'est tellement, t'as eu du mal à y croire?
Oui, complètement. J'ai un peu du mal avec les bonnes choses, j'ai toujours l'impression que ça va foutre le camp. Et avec Jeanne, j'ai vraiment eu ce truc de, j'ai envie d'y croire et en même temps, j'ai tellement peur de, que ça n'arrive jamais. Donc, du coup, oui, une fois que je l'avais dans mes bras, là, là, c'était bon, quoi.
Tu t'es sentie mère tout de suite?
C'est difficile à dire. Encore aujourd'hui, je sais pas. Je sais que je suis sa maman et tout, mais c'est quoi se sentir mère? J'en sais rien. Mère, je sais pas, oui. En tout cas, je sais que je devais la maintenir en vie le plus longtemps possible. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Hein. Je la nourris, je la lave. Voilà, mais mère... allez... Je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, je suis une maman parce que je suis sa maman, mais.
Mais t'as compris.
Mais c'est quoi être mère?
Que t'avais de nouvelles responsabilités, en tout cas, et que, ou même pas forcément.
Non, je sais que j'ai mis mon nez dans sa bouche pendant 4 jours parce que j'adorais l'odeur de son intérieur. C'est complètement fou, mais j'avais mon nez qui était dans sa bouche. Et je reniflais, je me dis, elle sent la pureté. C'est fou. J'ai jamais senti une odeur de pureté comme ça, et ça, c'est magnifique. Mais je savais que je devais... Enfin, voilà, c'est pas mère, c'est plus, voilà, on est de 2, on a fait 3, et puis on est là, et on se débrouille, quoi. C'est de l'impro, et encore aujourd'hui, c'est beaucoup d'impro, quoi. Donc, oui, je suis sa mère, et personne ne pourra jamais toucher un cheveu de ma fille. C'est ma fille, mais je... Voilà, mère, c'est un truc...
C'est comme si t'arrives encore... presque pas à y croire aujourd'hui que finalement c'est toi qui avais fabriqué cette petite personne, quoi.
Ah oui, complètement, parce que c'est vrai que Jeanne, elle me fascine, quoi. Je peux passer des heures à la regarder, quoi, à la contempler, en fait. Je regarde les courbes de son visage, je regarde son allure, je l'écoute parler, je vois ce qu'elle... Je suis beaucoup dans la contemplation avec ma fille. C'est bizarre, hein. Pourtant, je la mets pas du tout sur un piédestal parce qu'elle est chiante, elle arrête pas de parler, je lui dis tout le temps de se taire parce que je la contemple comme si j'étais en haut d'une colline et que je voyais une merveille, quoi. Enfin, et c'est bizarre, hein, mais c'est vraiment ça. Mais elle me saoule tout le temps, quoi. Enfin, autant que je l'adore, autant qu'elle me fait rire. Mais voilà, on a une vraie relation d'enfant-parent, mais je suis fort dans la contemplation avec elle, ouais.
Comment il a réagi, Raph, quand tu lui as glissé à l'oreille que t'étais enceinte?
Alors lui, il avait le sommeil lourd, et donc il a fait « Ah, bon ?» Voilà. et après, bah, en fait, on a vécu au jour le jour, bah, voilà. Donc, ok, elle est enceinte, l'information, elle est là, le ventre grossit, bon, bah, c'est chouette. Et lui, je ne savais pas, je le connaissais, mais ça faisait qu'un peu plus d'un an qu'on était ensemble et je ne savais pas comment on allait vivre ça. C'était de l'impro. Mais lui, voilà, quand c'était un garçon d'abord, selon les échos, puis c'est devenu une fille, quand c'est devenu une fille. J'ai vu le visage de Raphaël s'éclairer, quoi. Genre, ah ok, en fait, c'est une fille. Et puis après, à partir du moment où elle est arrivée, Raph, c'était bon, quoi. Il y avait moi, il y avait Jeanne. J'avais l'impression que son bonheur était complet, quoi. Et il a vraiment pris... il a pris Jeanne et il savait quoi faire avec elle, alors que moi, je savais pas toujours forcément. Lui, il savait, quoi. Et c'était sa fille, et ils ont été pendant 6-7 ans, collés, serrés, quoi.
Il est devenu père tout de suite, lui?
Tout de suite, mais instantanément, je veux dire, il l'a mise sur moi, et puis à partir de ce moment-là, il a fait les trucs avec les infirmières, là, moi j'étais un peu dans le gaz. Lui, il a fait ses trucs, et puis il a tout géré, et on a continué notre vie... Enfin, on continuait à faire de la musique, on continuait à travailler. Et lui, il avait toujours conscience de nous et de cette famille-là, où moi, parfois, j'étais plus dans mes pensées, plus angoissée. Lui, il avait les deux pieds sur terre, il était ancré dans ce moment présent, quoi, avec nous. Il savait mettre ses priorités, en fait. Et sa priorité, c'était clairement Jeanne et moi. Et donc, oui, il avait une grande intelligence émotionnelle, Raph. Un truc assez rare.
Quel souvenir tu gardes de la vie, justement, des débuts de vie à trois? C'était dur pour toi?
Pour moi, c'était un peu dur parce que c'était un moment où j'avais beaucoup de propositions, beaucoup de projets, que ce soit un peu dans les médias, dans la musique. Je vivais enfin un rêve professionnel, on va dire, en même temps qu'un rêve privé, parce que j'étais avec Raph, le mec dont j'avais toujours rêvé et qui un jour est apparu. Et puis voilà, on avait cet enfant, on avait notre vie de famille, c'était assez idéal. Et en fait, c'était absolument génial. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à trouver ma place là-dedans parce que j'étais tiraillée entre l'amour que j'avais pour eux, pour mon foyer, et l'amour que j'avais pour mon boulot et pour ma rage d'à chaque fois vouloir multiplier les projets, de faire plein de trucs parce que je suis un peu une hyperactive. Et du coup, ouais, j'ai eu l'impression de vivre en apnée pendant pas mal d'années parce que j'ai enchaîné beaucoup de trucs. Et aujourd'hui, ouais, c'est un petit regret de pas avoir été plus à la maison. Mais en même temps, j'ai fait des tas de choses et qui me permettent aujourd'hui d'être aussi ce que je suis pour elle. Et donc, il y a des regrets et en même temps pas de regrets. C'est un peu.
Ouais, tu serais pas la même personne si t'avais fait d'autres choix.
Ouais, c'est clair. Et Raph m'avait vraiment. C'était vraiment à deux une espèce de compromis, de dire voilà, dans le milieu artistique, ça peut marcher pour moi, et puis un an après, ça peut marcher pour toi. Et là, je venais d'accoucher, le timing était pas super bon, mais ça marchait pour moi. Et donc, du coup, il m'a laissé le champ libre et il a pris soin de notre amour et de notre vie de famille, quoi. Pendant que moi, j'étais occupée de virevolter sur les routes, quoi. Puis on a fait des projets ensemble et c'est comme ça aussi, petit à petit, qu'on a trouvé notre équilibre en bossant ensemble et séparément. Et voilà.
C'était quoi vos grandes lignes d'éducation, Araf et toi?
Alors, on en a improvisé quelques-unes. Non, la seule chose qu'on s'était dite et pour laquelle voilà, on n'a pas fait de concession, c'est qu'on allait être, peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais si l'autre prend une décision, on le suit, quoi. On le suit de manière aveugle et tant pis. S'il dit à Jeanne, ouais, ça, et ben moi je dis ouais, ça, et pas autrement. Et on se contredit pas, en fait, devant la petite. Et surtout, on essaye de... Enfin, on essaye. On l'a fait. On se manque jamais de respect. Et alors... aussi, moi, je me dénigre beaucoup parce que je suis jamais contente de mon physique et de mon bazar. Et là, quand je disais, ouais, t'as vu, je suis moche là-dedans. Il disait, peu importe, mais ça, tu peux pas faire parce qu'en fait, tu dois apprendre à ta fille à s'apprécier. C'est pas en te dépressant que tu vas lui apprendre à... Donc, c'était plus dans des grandes lignes d'éducation. C'était pas genre, oui, elle va coucher à 8 heures, elle mangera pas de sucre et elle boira pas de coca. C'était plus dans les grandes lignes, quoi. Parce que Raph était très dans les grandes lignes. Il avait des chouettes principes, des chouettes valeurs. Et du coup, peu importe comment on vivait, même si c'était décousu complètement tout le temps, au final, il y avait des choses qu'il fallait respecter, c'était le respect entre nous et le fait de rendre heureuse Jeanne à chaque jour, quoi, la faire kiffer, quoi. Parce que lui, il était, lui, il se souvenait, il avait beaucoup de souvenirs de son enfance, qu'il avait adoré recevoir tel jeu, qu'il avait adoré faire ça avec ses parents, qu'il avait adoré tel souvenir. Et donc lui, il fabriquait ça avec Jeanne dès le début, quoi. Il lui a transmis sa culture geek à fond. Il n'y a pas un détail de Star Wars qui échappe à Jeanne. Tous les jeux vidéo, les bazars, les films, tout ça, Jeanne, dès 3 ans, elle en a mangé. Mais enfin voilà, il voulait lui transmettre juste du plaisir, quoi. Le plaisir, que du plaisir, que du bonheur, que de l'amusement. On faisait un peu bon flic, mauvais flic, quoi. Moi, j'étais plus là pour faire des légumes le soir. Mais ça marchait. On n'avait pas de grands principes d'éducation, je l'avoue. Mais voilà, on avait le plaisir, quoi. On s'amusait bien.
À quel moment est-ce que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de la santé pour Raphaël?
C'est difficile. Maintenant, avec le recul, certains m'ont dit qu'ils avaient remarqué qu'il avait un peu maigri. Nous, on avait mis ça sur le compte d'une vie un peu trop trépidante, quoi. Tout le temps, se coucher à 3h du mat, se réveiller à 6, faire de la musique et en même temps éduquer un enfant. Mais apparemment, il avait maigri. Et puis un jour, ouais, il a eu un... il a eu un symptôme visible qui nous a emmenés aux urgences. Et puis là, le verdict est tombé assez rapidement, en fait. Il y a eu deux, trois erreurs de diagnostic. Et puis après, il y a eu un diagnostic, quoi.
Mais donc, vous êtes passé très vite de « tout va bien »
Ouais, quasiment du jour au lendemain, hein. On avait appris, je m'en souviens très bien, parce que c'était l'anniversaire de notre couple, c'était le 1er février, et on se prenait toujours un petit hôtel pour être un peu tranquille tous les deux, sauf que là, cette année-là, il était dans le fauteuil parce qu'il avait eu pendant la nuit un truc qui s'était passé dans son corps, et donc le lendemain, on avait dû aller aux urgences. Et puis là, on nous avait renvoyé à la maison. Et puis finalement, ça tombait un week-end. Et là, le lundi, l'hôpital nous a rappelé en disant les radiologues seniors ont regardé vos scans. Et en fait, on aimerait bien que vous reveniez parce que il y a quelque chose qui nous préoccupe un petit peu. Donc, on aimerait bien faire quelques analyses supplémentaires. Et puis, en fait, ce jour-là, donc, on venait de conduire Jeanne à l'école, on allait commencer notre journée. Lui était pas bien, mais vu qu'on avait été aux urgences pendant le week-end et qu'ils avaient dit bon bah rentrez chez vous, dormez, ça va aller. On s'était pas plus inquiété que ça. Sauf que là, évidemment, avec l'appel, on va à l'hôpital et puis ils commencent les analyses. Puis en fait, il se passe rien, on nous dit rien. Lui, il est couché, on lui fait des ponctions à gauche, à droite. Et puis moi, à un moment donné, je vois qu'il est 15h et je me dis, bon, il faut qu'on aille chercher la petite à l'école quand même. Et puis donc, je vais dans le bureau des médecins aux urgences et puis je dis au médecin, est-ce qu'on est bientôt libéré ou est-ce qu'on peut savoir quelque chose? Je dis parce qu'on est là depuis 9h du mat et en fait, on n'a aucune info, on ne sait pas qui, quoi, quand, comment. Voilà, est-ce qu'on peut juste avoir une info ou savoir à quelle heure on peut partir d'ici parce que notre fille, voilà, elle est à l'école, on doit aller la chercher. Et puis là, le médecin me regarde avec des grands yeux tout ronds et puis il me dit je suis désolée, mais il me dit j'ai jamais vu ça. Et puis je dis vous avez jamais vu ça quoi? Parce que ce qu'on peut savoir. Puis il me dit je peux pas vous dire parce qu'en fait j'ai jamais vu ça, donc il faudra voir avec les médecins. Il dit mais je me demande quel sera le pronostic. Donc là on est à J plus 3 après les premiers symptômes. Et le médecin il me dit pronostic. Et donc là il y a un truc, j'entends un bourdonnement dans mes oreilles et là c'est comme si un gros brouillard s'emparait de mon cerveau et je me dis non, il a pas capté, il m'a dit pronostic mais il voulait dire diagnostic parce que pourquoi pronostic, qu'est-ce qu'il en sait, enfin je veux dire on a fait 2 prises de sang à pronostic. Mais du coup, j'ai ça dans ma tête, mais j'en parle vraiment à aucun moment à Raph parce que je me dis, attends, c'est complètement hallucinant, il s'est trompé, c'est pas possible. Et puis finalement, on est libéré de l'hôpital et le médecin vient nous dire avant qu'on parte, voilà, on ne sait pas ce que c'est. Mais on vous tient au courant. Et pour le moment, les premières infos, c'est que c'est peut-être une leucémie ou quelque chose comme ça. En réalité, l'avenir nous dira pas longtemps après, 10 jours après, que c'était pas une leucémie, mais que c'était un cancer qu'ils auraient pas pu trouver s'ils avaient pas ouvert Raph à un moment donné. Donc un truc improbable, complètement rare et complètement agressif et complètement... injuste, mais... Donc voilà, on l'a appris en 15 jours de temps, on savait que c'était grave, avancé, et vu qu'on l'avait un petit peu manipulé dans les examens, très vite il a été immobilisé. Donc pendant tout le temps de sa maladie, il était plus ou moins immobile.
Donc de passer à une vie où rock'n'roll, où vous faites de la musique, ouais. En 10 jours, 10-15 jours...
En 10-15 jours, il est
dans complètement autre chose.
Il est alité, il souffre le martyr et on commence les traitements lourds et inhumains. Je dis inhumains parce que franchement, c'est nécessaire parce que je suis consciente que tous ces traitements lui ont fait gagner du temps et j'y crois dur comme fer que les traitements lui ont fait gagner du temps, mais à quel prix, quoi, parfois, c'était vraiment violent.
Est-ce que vous avez su tout de suite que c'était incurable?
Moi, je l'ai su tout de suite, parce que déjà, il y avait une part d'intuition, je voyais bien comment les médecins réagissaient, je voyais bien que les choses fonctionnaient pas comme elles devaient fonctionner, enfin, je pense que j'avais compris, puis aussi, évidemment... On se renseigne un peu, on essaye de prendre des infos à gauche, à droite, pas toujours de la meilleure des manières sur Internet et tout ça. Mais lui, je pense que peut-être qu'il le savait, peut-être qu'il le savait pas. Mais je pense qu'il s'est protégé de savoir ça aussi. Et du coup, on n'a pas occulté ça, mais on n'en a pas fait un. Allez. On s'est pas dit, on se réveille... Enfin, je pense que lui savait, mais d'un autre côté ne voulait pas savoir. Et donc, on a vécu un peu ça chacun de notre côté, dans nos têtes respectives. Moi, en sachant que je devais quand même anticiper bah, s'il y avait la petite. Et lui, en se disant, je veux pas le savoir parce que je veux vivre chaque moment sans avoir cette chape de plomb au-dessus de la tête. Donc, c'était deux manières de penser qui étaient très... qui étaient, en tout cas, réfléchies pour qu'on puisse continuer à se réveiller le matin, aussi bien lui que moi, quoi.
Avec, c'était une manière de vous protéger l'un l'autre aussi.
Oui, moi, je voulais pas que... Le cadeau qu'il nous a fait pendant toute sa maladie, c'était de ne pas... il a pas paniqué. Il a pas cédé à la panique. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un cadeau parce que quand on voit, quand on sait déjà que c'est un peu désespéré, mais qu'en plus la personne à côté panique, a peur de ce qui va arriver, ça aurait vite été ingérable. Et en fait, lui, il a vécu, j'imagine qu'il paniquait, que je ne peux même pas m'imaginer ce qu'il devait ressentir au fond de lui. Mais je sais qu'il nous a protégés de ça et c'est une force inouïe parce que il aurait pu avoir un, il aurait pu céder à la panique, quoi, dire, oh, quoi, qu'est-ce qui se passe, que, moi, j'ai cédé à la panique parfois, pas face à lui, mais parfois je me retrouvais dans des états, en me disant, mais c'est quoi cette cage qui est en train de plonger au fond de l'eau et de laquelle je pourrais jamais me sortir. Et... Mais lui, voilà, il avait cette grandeur d'âme. Il nous a protégés malgré que c'est lui qui allait pas s'en sortir. Parce que nous, à un moment donné, on allait s'en sortir.
Comment est-ce qu'on explique à une petite fille, elle a quoi, elle a 6 ans à ce moment-là? 6-7 ans.
À ce moment-là, ouais, elle a 6 ans. Elle,
ouais, elle a 6 ans. Son papa ne va pas bien.
Tout début. Ben, en fait, au début, c'est un peu comme on l'a vécu, Raph et moi. Donc, on l'a vécu un peu tous ensemble. Tiens, on va à l'hôpital. Tiens, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Dans les premiers mois de la maladie, on a essayé de le vivre au jour le jour en se disant, ben voilà, de toute façon, on fait le traitement. On ne sait pas ce que le traitement donnera. Et je pense que voilà, même si on savait vaguement, on avait quand même toujours cet espoir qui est humain et qui est nécessaire, parce que si on n'a pas l'espoir que le traitement fonctionne, on fait pas.
Oui, à quoi bon le faire?
Enfin, ou alors on le fait, mais... Et là, on avait quand même besoin d'avoir cette énergie du désespoir en faisant les traitements et en se disant, bah, on n'est pas à l'abri d'aller chez l'oncologue dans un mois et qu'ils nous disent « Ah ben, ça a diminué, on va pouvoir opérer. » Enfin bon, ce genre de trucs, on ne sait pas. On entend des trucs parfois miraculeux, on se dit « ça va certainement nous arriver. » Donc à Jeanne, ben voilà, on essaye de... Après c'est le confinement, on n'est qu'entre nous, donc c'est un peu chaud, on n'a pas trop de soupape, on est complètement livré à nos trois petits cœurs blessés. Et donc on essaye de positiver, on essaye de pas trop y penser, on fait les traitements et on se dit voilà, maintenant on a rendez-vous dans un mois pour voir si tout va bien. Laissons-nous vivre. Et en même temps, non, parce que Raph souffre, Raph ne bouge pas dans le fauteuil. En même temps, on voit personne, en même temps, il n'y a pas d'école, et en même temps, moi, j'ai cette chape de plomb au-dessus de la tête, tout comme Jeanne l'avait certainement aussi, et tout comme Raph l'avait certainement aussi. Mais on vivait, voilà. Comment on explique ça à un enfant? Ben, en fait, on lui explique pas parce qu'elle est une éponge, parce qu'elle nous voit, elle nous voit rire, elle nous voit pleurer, elle nous voit se serrer dans les bras, elle voit que quand je lis un courrier, je m'effondre, ou que, elle voit que je prends la température de Raph, elle voit que... Donc en fait, on lui explique pas, elle l'est avec nous, elle comprend ce qui se passe, et en même temps, elle a 6 ans, donc qu'est-ce qu'on lui dit? Ben on lui dit que là, je prends... On est très dans les faits, en fait. Là, je prends la température de papa parce que là, il va pas bien. Là, il va faire une sieste. Nous, on va aller faire un petit tour. Voilà. Et puis, quand il se réveille, il est avec nous. Il est présent et il est joyeux. Donc, en fait, on vit ça à ce moment-là comme ça. Puis après, il y a des traitements qui dégénèrent, où il faut qu'il aille à l'hôpital, où il faut que je reste seule avec Jeanne. Alors là, là évidemment, je rentre un peu plus dans le vif du sujet avec Jeanne, quoi. Et je lui dis que voilà, que papa est malade et qu'on fait tout pour le soigner. Et c'est la vérité, je lui mens pas à ce moment-là. À aucun moment, je lui ai menti d'ailleurs, parce que quand ça a vraiment dégénéré, je lui ai dit aussi très, très frontalement. On était à l'hôpital, là, l'oncologue, enfin, on avait été dans plein d'hôpitaux différents parce qu'il a essayé tout un tas de choses. Et le dernier hôpital, on avait un oncologue absolument génial, mais vraiment un médecin d'une grande qualité qui avait été très, très, très juste sur le c'est horrible ce que je vais dire, mais sur le timing qui nous restait, sur ce qu'on pouvait faire encore pour vivre ça de la meilleure des manières, en sachant que ça n'allait plus, que ça n'allait pas fonctionner dans le temps, encore longtemps, quoi. Et donc, il est venu nous dire que on allait sans doute devoir commencer tout doucement à préparer le départ de Raph. Ça a été d'abord 3 mois, et puis ça a été 1 mois, et puis il est revenu en nous disant, voilà, maintenant, d'ici, dans moins d'une semaine, vous serez partis. Enfin, donc c'est quand même assez intense. Mais donc la première fois qu'il nous dit, voilà, que ça ne va pas pouvoir continuer au-delà de 3 mois, je dis à Jeanne, voilà, papa va mourir. Donc, je ne sais rien dire de plus, il est malade et sa maladie... Pardon.
Et elle me dit, je m'excuse, hein. Et elle me dit, comme Jeanne est, elle me dit, ben, je veux voir le médecin. Et je... Donc, moi, je suis un peu déstabilisée. Je me dis, OK, ben, je vais demander au médecin s'il peut te recevoir. Et donc, le médecin me dit, il n'y a pas de problème, je vais recevoir Jeanne dans mon bureau. Je vous attends, voilà. Et là, Jeanne, complètement... En fait, complètement stupéfaite et en même temps, enfin, je sais pas comment décrire je sais pas décrire en fait ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, parce que moi, quand je lui ai dit ça, elle m'a juste dit, voilà, moi, je veux parler au médecin, parce que là, ce que tu me dis, c'est cool, mais tu restes que ma mère et tu n'y connais sans doute rien à ce qui est en train de se passer, donc moi, je veux parler à la personne compétente. Mais elle avait 7 ans, quoi. Donc le médecin la reçoit, il ouvre la porte, il dit, voilà, Jeanne, tu peux t'installer. Et alors le médecin est formidable parce qu'il lui explique dans des termes très accessibles le mal dont son papa souffre et pourquoi il n'en sortira pas. Et après, on est entouré à l'hôpital par une équipe de psychologues. Je m'excuse de craquer justement à ce moment-ci. Mais ce qui est bouleversant, c'est de se dire qu'en fait, pendant toute la maladie, j'ai redouté le moment où je dirais à Jeanne que son papa allait mourir ou était mort. Et donc, à ce moment-là, le cadeau aussi, quelque part, qu'elle m'a fait de sa réaction en disant, écoute, maman, je comprends que... Parce qu'elle elle m'a pas dit ça, mais j'ai compris que... Qu'en 10 ans, je vais aller voir le médecin. Elle était déjà intelligente. Enfin, elle avait déjà cette intelligence de dire, écoute, là, on rentre dans des choses trop, trop difficiles pour nous. On va aller s'adresser aux autorités compétentes, quoi, qui vont pouvoir nous expliquer le truc. Et après, et en même temps, c'était complètement hallucinant parce que ce dernier mois, on l'avait passé à l'hôpital et Jeanne, en fait, était avec nous tout le temps. Je lui ai jamais menti sur ce qui se passait, sur ce que son père traversait, sur ce que moi je traversais aussi, et sur ce qu'elle traversait. Et puis on a vécu dans une chambre d'hôpital à trois, et elle me voyait parler au médecin, lui donner ses médicaments, parfois m'occuper de lui, enfin je veux dire très techniquement quoi. Et elle était avec nous, elle voyait ce qu'on faisait, et puis je me suis demandé aussi, tiens, est-ce que c'est pas complètement horrible que cet enfant assiste au déclin de son héros quoi. Et en fait je me suis beaucoup posé la question, et j'ai beaucoup posé la question au psychologue à l'hôpital. Enfin, en fait, je c'était le bordel complet dans ma tête, en me disant qu'est-ce que je dois faire avec cet enfant quoi. Et en même temps, pour Raph, je me dis il doit être avec sa fille, c'est maintenant ou jamais. Et je me disais elle doit être avec son père, c'est maintenant ou jamais. Et moi, je dois être avec eux deux, parce que ce trio qu'on forme, c'est maintenant ou jamais. Et donc, en fait, un soir, j'ai demandé. Il y avait un médecin en soins palliatifs qui était là, et je sais pas pourquoi elle donnait des calmants à Raph. Et alors elle me regarde parce qu'elle me voyait. J'étais toujours au-dessus, debout, à regarder Raph. Et là, il faisait nuit dans la chambre. Jeanne dormait dans un coin. Et je la regarde, et elle me regarde, et elle me dit « Un bon accident de voiture. » Et moi, je dis « Bah ouais, un bon accident de voiture. » Parce que, et en me disant ça, j'ai compris qu'elle me disait « Putain, ça fait... » Pardon, je m'excuse. Elle me disait... Je comprenais qu'elle m'avait pris sur tous ces mois qu'on avait passés horribles, quoi. Et qu'elle me disait, voilà, une mort soudaine aussi, parfois, c'est bien, quoi. S'il faut mourir. Et donc, oui, elle m'a soulagée en me disant ça, parce que c'est vrai que voilà, c'était difficile à voir. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez du fait que ma fille soit là? Et c'était une femme, je me souviens, une espèce de grande Lady Di, une grande femme blonde aux cheveux courts, très classe et très, très joviale. Pour un médecin en soins palliatifs, c'était complètement très, très forte, très mince, très, très, très classe, mais très forte comme ça. Et alors elle m'a dit, vous préférez que votre fille soit à la maison et qu'elle fantasme tout ce qui est en train de se passer, dans le sens de fantasmer. Elle pourrait même penser pire, quoi. Et donc, elle me dit, c'est vrai que ça peut paraître difficile maintenant, tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle subit, mais au moins, elle n'aura pas réellement de questions par rapport à tout ce qui s'est passé. Elle dit, et vous lui faites un cadeau pour l'avenir, parce que vous lui permettez d'accompagner son père, allez, vers là où il va, et du coup, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est vrai que quand on est rentré à la maison, quand Raph est décédé et tout ça, même par rapport à sa maladie, vu qu'elle m'avait accompagnée partout...
Elle avait déjà les réponses, en fait.
Elle avait les réponses, elle n'avait pas de questions. Et parfois, encore aujourd'hui, quand elle me pose une question ou quand il y a quelque chose qui se passe, je lui dis que je lui ai jamais menti. Et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit « Oui, je sais. » Elle sait que je lui mentirai jamais, même dans le pire. Enfin, là...
Oui, pour la construction de la confiance aussi entre vous.
Ah ouais, ouais.
Elle sait que tu es la personne en qui elle peut avoir le plus confiance.
En tout cas, je lui avais dit déjà à ses 7 ans, je lui ai dit « Voilà, je veux pas te mentir, je te mentirai jamais. Je dois te dire la vérité, tu l'as vu. » Maintenant, tu sais que dans ma vie, s'il y a bien une chose que je ferai jamais, c'est de te mentir. Et ça, elle me dit... Enfin, elle le sait. C'est...
Comment est-ce que tu as vécu les semaines qui ont suivi le décès de Raph, les semaines, les mois? Parce que j'imagine que tu as ta peine à toi, la peine de ta fille à gérer. Comment on fait pour s'effondrer, pour accepter sa propre tristesse quand en face de soi, on a son enfant, à qui, j'imagine, on ne veut pas faire peser ça non plus?
Pour dire toute la vérité, c'est qu'on a, on a tellement vécu une descente aux enfers qui était épuisante, sur tous les plans émotionnels, physiques. C'est vraiment, c'était un moment, c'était fou. Il fallait tenir physiquement, quoi, pendant ces 14 mois de lutte, parce que chaque moment où on s'est dit que c'était pire, c'était encore pire, et encore pire, et encore pire. Et au moment où je me disais, là, ça peut pas être pire, ah bah si, c'était encore pire. Et du coup, quand les derniers moments à l'hôpital, il y avait son meilleur ami et était venu le voir, et au final, il est plus jamais reparti, donc il est resté avec nous jusqu'au bout. Et quand il est parti, j'étais effondrée, et en même temps j'étais, il y avait un soulagement qui s'est emparé de moi, mais vraiment, je sais pas expliquer, un truc genre ok, là maintenant c'est fini, on va vers autre chose, quoi. Je vais prendre soin de ma fille, on va se reposer d'abord, on va. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se sent? En fait, on sait pas. Là, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas réfléchi à comment je me suis sentie directement après. Je sais qu'on a senti un grand vide, qu'on regardait des films toutes les deux, qu'on se lâchait plus, qu'on dormait ensemble, qu'on était devenus très, Elle voulait plus me lâcher 5 minutes parce qu'évidemment elle était dans une grande insécurité d'avoir perdu un parent, donc elle voulait pas me lâcher de son champ de vision, quoi, ce qui est normal. Moi non plus. On s'est fort accrochés l'une à l'autre, et puis comment on se sent, comment on s'effondre, bah on s'effondre en fait. Puis Jeanne, voilà, j'ai jamais occulter mes sentiments et ce que je ressentais vis-à-vis d'elle, parce que j'avais l'impression qu'elle avait besoin de me voir pleurer et de me voir en manque de son père, et en me disant, moi, naïvement, bah ça va l'aider aussi à sortir tout ce qu'elle a à sortir, sauf qu'en fait elle a pas du tout eu cette réaction là elle a eu une réaction de, elle s'est dit non, je vois ma mère complètement partir en live, quoi. Donc en gros, elle a tenu bon à fond, et elle a pas voulu parler de Raph, elle a plus voulu en parler avec moi, alors que j'avais toujours été très, j'avais toujours dit mes sentiments par rapport à ça, je lui avais rien caché, et puis en un coup elle se refermait comme une huître, mais parce que c'était l'insécurité. Elle s'est dit, si on parle de papa, si on tourne autour du sujet, maman va repartir, donc il faut qu'on évite le sujet, il faut que moi j'occulte, il faut que moi je dise que je m'en fous, et c'est ce qu'elle a fait.
Elle t'a protégée, en fait.
Elle m'a protégée à fond, ouais. Après, évidemment, les rôles se sont inversés, il a fallu du temps, elle a grandi, parce qu'elle était petite, puis à un moment donné, ouais, son évolution a fait que c'est venu, sa douleur, sa tristesse et le sentiment d'injustice est arrivé plus tard. On est un peu passé ça, mais on était en plein dedans il y a un peu moins d'un an, quoi. C'était, parce que là, voilà, elle se rendait compte de plein de choses, plein de souvenirs qui lui revenaient, des choses qu'elle avait, quand elle a vu que j'allais mieux, c'est à ce moment-là qu'elle a, elle, pris le champ, pour s'exprimer, et elle a bien fait, et c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui d'aller mieux. C'est un grand mot, enfin je veux dire, c'est je vais mieux, oui, parce que j'ai repris le dessus sur mon boulot, ma vie, mon truc, mais la douleur, elle est toujours là, elle est super présente, la blessure, elle sera toujours là, et je veux pas qu'elle me quitte, parce que c'est ça qui me tient accrochée à lui. Mais voilà, je peux maintenant en parler sans, visiblement pas ici, mais je peux en parler sans craquer, sans avoir un débordement d'émotions, quoi.
Est-ce que tu penses que finalement la présence de Jeanne, c'est aussi ça qui vous a permis de tenir aussi longtemps, qui vous a donné de la joie et de la légèreté là où il n'y en avait plus?
C'est à double.
Oui, parce qu'à la fois c'est horrible parce qu'elle doit subir ça, et à la fois ça. Sa présence fait que pour vous il y a quelque chose quand même de lumineux. Il y a une.
Non, toi, non, mais. toute façon, ça, qu'on vive dans un moment horrible ou dans un super moment, sa présence a d'office changé notre vie, a illuminé notre vie. Sa présence était difficile dans le sens où Raph me disait, ça me fait vraiment chier de vous laisser, quoi. Parce que voilà, mais sa présence, bien sûr, ça nous a donné envie de nous battre et de profiter de chaque instant, et ça nous a aussi permis parfois de pas penser aux problèmes qui nous plombaient, c'était de dire voilà, bah voilà, Jeanne, elle a besoin d'aller peindre, d'aller courir dehors, elle a besoin. J'avais pris aussi un chien pendant le confinement parce que je voulais avoir un compagnon et Jeanne, on sentait que ça allait nous égayer, que ça allait faire du bien à Jeanne, qu'elle aurait vraiment un copain à quatre pattes avec qui vivre et partager tout ça. D'ailleurs, on l'a appelé Docteur, le chien. Doc. Donc oui, avoir Jeanne, ça nous a... de toute façon, depuis sa naissance, la voir, ça nous a boosté pour tout. Parce que voilà, avoir un enfant, ça devient plus qu'un bonheur, ça devient un moteur, ça devient une raison. C'était notre raison de vivre. Et là, on l'a bien compris de manière très concrète, quoi, qu'il fallait qu'on tienne bon pour elle. Ouais, ça a été une joie et en même temps, quand on la voyait rire ou quand on la voyait faire un truc, Raph devait certainement se dire, zut, sans elle, il aurait laissé moins sur terre quelque part. Mais elle, c'est aussi ce pourquoi on est là. Si on prend les origines profondes de l'humanité, c'est quand même de se reproduire et de... Enfin bon, bref... Je m'égare, mais je veux dire, voilà, c'était un bonheur. Ça a toujours été un bonheur. Et le fait qu'elle soit là, ça a certainement durci la chose, mais adouci aussi la chose. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais...
Oui, c'est très ambivalent.
Ouais, tout le temps.
Tu penses que t'es la même maman aujourd'hui pour Jeanne que tu l'étais avant? Parce que t'étais une maman dans une famille avec un papa. Aujourd'hui, t'es devenue maman solo. Et en plus, vous devez faire sans lui de la façon la plus voilà, douloureuse qui soit. Tu penses que t'as changé?
Oui et non, parce que je suis toujours une maman qui est libre. Je suis libre dans ma vie. Jeanne le sait, elle m'accompagne partout, mais voilà, maman fait ses trucs et Jeanne est là et elle subit un peu ma vie. Tout comme moi, parfois je subis un peu la sienne. J'ai changé. Non, je suis devenue un peu plus dure au niveau de l'éducation pour elle. Moins freestyle que quand on était à trois avec Raph parce que je me suis tout de suite dit que mettre des limites et mettre des règles à un enfant, c'était quelque part lui donner une sécurité. Et j'ai senti qu'elle en avait besoin de cette sécurité et que, au plus, parfois j'étais dure avec elle, au plus ça montait haut dans les tours, au plus elle m'aimait. Allez, au plus elle se sentait en sécurité, au plus elle venait dans mes bras me faire des câlins, après évidemment des clashs et des discussions, mais j'ai senti qu'elle avait besoin d'avoir plus de limites et plus de...
Un cadre, plus posé qu'avant, quoi.
Plus de cadre, ouais. Et du coup, c'est ce que j'essaye de poser malgré tout avec elle. Donc, vraiment commencer à être un peu plus structurée dans quand même ce gros flot artistique qu'est notre vie en règle générale. Mais oui, un peu plus, peut-être un peu plus sévère, moins coulante que quand on était à trois en mode freestyle avec Raph, quoi. Mais différente fondamentalement, non, je pense pas.
Elle est fille unique. Est-ce qu'il y a des moments où t'as regretté qu'elle soit fille unique? De te dire, si elle avait eu quelqu'un pour partager ça, ça aurait été peut-être plus facile pour elle? Ou au contraire?
Je me suis pas beaucoup posé la question, mais j'avoue que juste avant que Raph tombe malade, on envisageait de remettre ça. Et au final, oui, je suis passée par des moments où je me suis dit, tiens, ça aurait été sympa qu'elle ait un frère ou une sœur. Puis à d'autres moments, je me dis, attends, si j'avais eu un enfant encore plus en bas âge que ça à gérer, dans tout ça, ça aurait été compliqué, mais tout ça n'aurait peut-être pas dû arriver non plus. Enfin, j'avoue que j'ai pas trop pensé à ça. Je me disais juste, on vivait le moment présent et une personne en plus ou en moins, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que Jeanne, voilà, je me suis dit la pauvre, elle est toute seule, elle vit ça toute seule. Mais elle se construit aussi, elle s'est construite autour de ça. Et si elle avait eu un frère ou une sœur, est-ce qu'elle n'aurait pas aussi surprotégé son petit frère ou sa petite sœur? Est-ce qu'elle n'aurait pas... En tout cas, voilà, on n'a pas eu la chance d'en avoir un deuxième. Donc, il n'y a qu'elle. Et voilà, bon, c'était comme ça.
Justement, là, on parle de l'idée de faire un deuxième, dans l'idée de refaire sa vie. Comment est-ce qu'on fait pour refaire sa vie? Parce que tu es jeune, 40 ans quand même, c'est jeune.
Tellement jeune.
Tellement jeune. Mais donc tu as encore tout le loisir de refaire ta vie. Comment est-ce qu'on fait? Tu me le disais, tu vis avec ton nouvel amoureux, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de culpabilité par rapport à ça? Voilà, je pense aux mamans qui t'écoutent et qui peut-être traversent la même chose que toi ou ont traversé. Comment est-ce qu'on fait? Quel conseil tu donnerais?
Le truc, c'est que Raph n'est pas décédé de manière soudaine. Et donc, en fait, dans notre malheur, on a eu la chance de pouvoir s'installer l'un en face de l'autre et de se dire, je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse, en fait. C'était un moment complètement hallucinant et en même temps, c'est un moment qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Parce que déjà, il fallait avoir le courage de s'asseoir l'un en face de l'autre et de se dire, bon, alors, donc dans la certitude où tu vas être parti d'ici quelques jours, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il m'a dit, parce que Raph, voilà, j'arrêterai pas de le dire, mais c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui nous aimait réellement et qui avait ce truc. Il m'a dit, voilà, il y a deux choses. Il m'a dit, je veux que tu continues de chanter et je veux que tu élèves notre fille dans la joie. Il avait dit ça, il m'a dit pour le reste, tu fais ce que tu veux. Mais il m'a vraiment dit ça comme ça, il m'a dit pour le reste, tu fais ce que tu veux. Après tout ce que t'as fait, il m'a dit franchement. Et du coup, quand il est parti, j'ai eu le sentiment que c'est comme si voilà, notre histoire avait eu un début. Qu'elle s'était développée, qu'elle avait évolué, qu'on s'était aimé. Et quand il est parti, c'est comme si c'était fini. Il m'avait dit au revoir, on s'était dit au revoir. Notre histoire était... Je l'aimais toujours, évidemment, mais notre histoire d'amour était finie. Allez, ça a l'air bizarre ce que je dis, mais... Comme quand on est un couple et qu'on décide de se séparer à un moment donné, on met les choses sur la table. Il y a un enfant, donc on arrange un peu tout ça. Mais on se quitte, quoi, parce que c'est fini. Et évidemment, c'était pas ça, parce que j'étais avec lui, j'étais sa femme, c'était mon amour. Mais quand il est décédé, la minute où il est décédé, pour moi, c'est comme si à ce moment-là, notre relation était finie, notre relation amoureuse, pas notre relation éternelle, parce que évidemment je l'aimerais toujours, c'était mon grand amour, mais et pour refaire sa vie après, ben en fait, un jour, voilà, un jour quelqu'un croise, un jour voilà, j'ai croisé la route de quelqu'un et puis et j'ai pas. On n'a pas essayé de se sauver l'un l'autre, c'est juste qu'on ne sait plus et que les choses se sont faites naturellement. Et j'ai pas eu le sentiment, en me mettant avec cette nouvelle personne, que je trahissais Raph ou que je faisais quelque chose que Raph n'aurait pas voulu que je fasse. Je veux dire, parce que dans ma tête, voilà, Raph n'était plus là. Et j'ai tout fait pour prendre soin de lui. J'ai tout fait jusqu'au dernier moment. Et du coup, J'ai pas de culpabilité avec ça.
Oui, Raph est mort, mais toi, tu vis. T'es vivante et t'as le droit.
Ouais, et c'est même pas une question. Je me suis pas dit, tiens, je m'autorise ou je m'autorise pas à le faire. Ça, c'est les gens qui se sont chargés de me dire ce que je devais faire ou pas faire. Mais moi, dans mon cœur, j'avais besoin de m'en sortir, j'avais besoin de vivre, de me reconnecter à... Pas seulement pour moi, pour pouvoir être là, présente, pour ma fille, pour apprécier la vie, pour le temps qui me reste. J'ai vu Raph tellement se battre pour la sienne. Quelle stupidité de pas m'en rendre compte et de pas vivre moi aussi. Et de pas me rendre compte de la chance que j'ai, parce qu'au final, moi, c'est comme si j'en avais une deuxième dans tout ça. Si Raph avait pu avoir la chance d'avoir une deuxième chance, mais j'espère qu'il l'aurait saisi à fond des deux mains, quoi. Et oui, bien sûr, ça pose des tas de questions, mais moi, j'ai juste vu qu'à un moment donné, il y a un super gars qui était là et qui m'a dit « viens dans mes bras ». Et j'ai fait « ok ». Et puis maintenant, ça fait un an qu'on vit ensemble et je me dis « mais quel cadeau quoi, dans ce merdier, quel cadeau ce mec quoi ». Enfin, aussi bien pour moi que pour ma fille, il nous a pris, il m'a pas pris moi. Il s'est pas dit « ah tiens, je vais prendre la mère » et puis « ah bon, il y a elle ». Non, il nous a englobés toutes les deux dans son truc et il nous fait... Et il nous met bien, quoi. Il nous aime, on l'aime aussi, et il prend la place de personne. Et Jeanne, grâce à lui, quelque part, vu que moi, elle a du mal à m'en parler, elle valide tous les souvenirs qu'elle a avec son père, avec lui. Et lui, les reçoit... Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est tellement... Pour elle, c'est précieux de pouvoir déverser comme ça. Lui, il a tellement aussi d'empathie envers elle que il est fasciné par Jeanne et il l'adore. Et donc, c'est une nouvelle relation qui se fait autour de ça et c'est une relation qui est magnifique. Et je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste c'est un cadeau.
Tu m'as dit, là, quand tu en parlais brièvement, oui, c'est les gens qui ont dit ce que j'avais le droit de faire ou pas, enfin, qui ont pensé à ça. Justement, on en parlait là avant de lancer le podcast, c'est compliqué. Les gens, quand ils le vivent pas, ils ont envie de parler, ils savent pas comment. On parlait des gens qui parfois t'évitent quelque part pour à la fois peut-être pour pas être maladroit, à la fois pour se protéger eux. Qu'est-ce que tu voudrais dire justement? Qu'est-ce que t'aurais eu, de quoi t'aurais eu besoin des gens justement qui vivent pas ça? Qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un traverse ça pour lui faire du bien?
Franchement, j'en sais rien. Moi, je sais que j'ai fait au lendemain, au sortir de tout ça, j'ai eu un moment, j'ai un peu pété les plombs, j'ai fait n'importe quoi. Et Raph n'avait pas vraiment tenu au courant tous ses amis de l'état désespéré dans lequel il était. Ses amis savaient qu'il était malade, mais pas à ce point. Et il y a un ami qui est entré dans ma vie, mais qui était un ami de Raph. Et lui m'a sauvé la vie quelque part. Il est arrivé et je suis sûre, et il est arrivé pour par amitié pour Raph en fait, mais il est venu nous sans être, comment il a été. Et je peux dire que lui il a été juste, mais il était là, il était présent, il voyait que j'étais en train d'escalader une montagne, mais pas pour voir le paysage qu'il y avait au-dessus, mais il savait qu'à un moment donné, j'allais vouloir sauter de la montagne sans... Et du coup, il était là. Et après, il y a plein de gens qui sont venus. Il y a des gens que j'ai plus jamais revus deux jours après le décès de Raph, après avoir préparé l'enterrement. Il y a des gens que j'ai plus jamais revus, qui ont plus jamais voulu avoir de mes nouvelles. Il y a des gens qui en fait le comportement des gens est, je peux pas dire il y a une bonne méthode ou il y a une mauvaise méthode. Les gens vivent aussi, ils ont tous vécu avec la souffrance, parce que Raph c'était mon mon amour, c'était le papa de Jeanne, mais c'était aussi un meilleur ami, c'était aussi un fils, c'était aussi un frère, c'était aussi... Et donc, en fait, y a d'abord cette grosse chape de douleur qui s'abat sur tout le monde, où tout le monde est là dans la première semaine après la disparition, parce qu'il faut préparer tout un tas de choses. Et puis après, il y a le « ouais, on doit sortir de ça », donc chacun reprend sa vie à... par rapport au degré qu'il avait d'attachement et de
allez, ouais, d'intimité,
et d'intimité avec Raph. Sauf que nous, on est restés, nous et sa famille proche, on est restés fort, fort dedans. Et les gens, ben, ils ont besoin, à un moment donné, c'est trop. Ils ont besoin de se dire, OK, Julie, c'est chouette, mais on va un peu prendre des distances parce que ça nous plombe, parce que c'est compliqué. Et il y a vraiment dans ce lot-là, dans tout ce que les gens n'ont pas su faire ou ont fait, où il y avait cet ami-là et lui, il était juste là pour me mettre de temps en temps mon nez dans ce que je faisais de pire, et pour s'asseoir, pour pleurer avec moi, pour me nourrir, pour mettre ma fille au lit une fois de temps en temps, pour me dire, tiens, tu sais, là, t'as 18 factures en retard, il serait peut-être temps de mettre un peu ton nez dans tes trucs. Et aujourd'hui, ben voilà, c'était pas vraiment mon ami à la base, c'était plus l'ami de Raph, mais aujourd'hui, c'est mon... Tous les jours, on s'appelle, il est là, c'est même pas mon meilleur ami, c'est quelqu'un avec qui on s'insulte la plupart du temps, en plus, parce que voilà, on a des vies très différentes et des conceptions opposées, mais il est là. Et lui, il m'a aidé, quoi. Il m'a vraiment aidé.
Quel conseil tu donnerais aux mamans solo qui galèrent, qui ont du mal à s'organiser? Comment tu fais?
Je sais pas donner de conseils, parce que je pense que le pire truc, justement, quand on est dans ce moment-là, c'est de recevoir un conseil, quelqu'un qui va dire fais plutôt ça ou fais plutôt ça. Moi ce qui m'a aidé, et c'est même pas un conseil que je donne, je dis juste que moi ça m'a aidé, c'est moi j'ai lu, j'ai pas arrêté de lire. J'ai essayé de trouver des podcasts, j'ai essayé de trouver des gens qui vivaient la même situation. Pas pour recevoir des conseils, mais juste pour essayer de mettre en perspective ce que je vivais et de me dire que j'étais pas seule. J'aurais voulu avoir accès à des groupes de parole ou des trucs. Je suis sûre que, vu mon tempérament, j'y serais allée. Mais un conseil, faut se réveiller, et puis si un jour on pense qu'il faut rester au lit, il faut rester au lit. Si un jour on pense qu'il faut un petit verre de Porto, ben il faut boire un petit verre de Porto ou pas. Ou allez, je veux dire, moi j'ai utilisé tout ça. J'ai parfois pris un petit calmant. Je suis parfois restée au lit. J'ai parfois pleuré. J'ai parfois été dans des états complètement bizarres. Faut accepter en fait ce qui vient, et il faut se pardonner, surtout, je pense. Faut se pardonner de ce qui arrive, et puis un jour, en fait, le brouillard, comme si le vent passait et que le brouillard se dissipait peu à peu, quoi. Parce qu'en fait, vraiment, le truc, c'est que on a l'impression que ça va jamais se dissiper, mais en fait, un jour, vraiment, ça se dissipe. Mais vraiment, c'est... physiquement, on le sent, quoi. On sent qu'un jour, on est un peu plus solide. Et puis, il y a des jours où on est vraiment plus du tout solide. Mais alors, le lendemain, on se réveille, on est deux fois plus solide. Et puis après, on est trois fois plus au fond. Mais alors, après, on se réveille quatre fois plus solide. Et moi, c'est ça que j'apprends de ça, quoi. Mais ce qui est surtout très, très vrai, c'est que le souvenir et le bonheur que j'ai eu avec Raph, il est... plus personne ne pourra jamais me l'enlever. Je l'ai vécu, c'est bon, c'est fait. Je l'ai vécu, j'ai eu la chance de ça. Et la douleur que j'ai, c'est toute cette douleur de ce truc merveilleux qu'on a vécu, quoi.
Comment tu vas aujourd'hui?
En règle générale, ça va. Non, ça va. Si, ça va. Je suis contente de... Je suis contente de ma force. Et je dis ça en pleurant, c'est complètement con. Mais quand je me regarde aujourd'hui, je suis... alors qu'avant, je me dénigrais fort, etc. Aujourd'hui, j'ai... ben, parfois, je suis fière. Parce que... Fière de moi et de ma fille, évidemment, parce que, voilà, on porte ça. Et surtout, tout cet amour, quoi. Parce que c'est pour ça qu'on est comme ça. C'est parce qu'il y a eu énormément d'amour. Et donc, je suis fière de... d'avoir vécu et de vivre encore dans ce grand amour, quoi. Et d'avoir... Et je suis contente d'avoir mes bras bien musclés et mes jambes bien sur terre parce que voilà, c'est un défi qui a su révéler beaucoup, beaucoup d'amour dans de la souffrance, mais c'était un défi... complètement tournée vers beaucoup d'amour, quoi.
Merci Julie.
Merci à toi.
D'avoir raconté ton histoire. Je pense que ça va aider beaucoup de gens, donc vraiment, merci.
Je vous quitte avec la chanson de Plain Jane que Julie a écrite dans les jours qui ont suivi la disparition de Raphaël. Cold Head, c'est son nom, sortira le jour de l'anniversaire de son décès, le 26 avril. N'hésitez pas à suivre Julie Compagnon sur les réseaux sociaux pour être au courant de son actualité musicale. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous, notez-le sur les plateformes dédiées. Si vous souhaitez que je vous interviewe à votre tour, faites-moi signe en m'envoyant un mail pour toutes les infos sur acoeuroubertpodcast@gmail.com. Je ne vous promets pas que My Name is Mom reviendra de façon régulière, mais j'ai déjà un autre épisode enregistré, la suite s'annonce bien donc. Je vous dis à très vite. Since you've been gone, the days drift along. Solitude, I dread. I can't remember when or how I break down. I'm stalled. Life moves on. Do you